Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 368. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un que les habitués connaissent depuis longtemps, parce qu'il était là tout au début. C'est Jonathan Potier, pour son ouvrage qui est sur l'évaluation de la formation. Et donc, c'est un ouvrage rare parce que c'est un ouvrage qui est un best-seller, c'est-à-dire qui marche bien. Troisième édition, avec comme préface Alain Maignan, qui vient aussi souvent sur l'émission. En tout cas, c'est une question importante qu'on retrouve et qu'on retrouve aussi fortement dans les entreprises en se disant comment est-ce qu'on compte le fameux ROI, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et donc, tout ça, on a la bonne personne, Jonathan Potier. Jonathan, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de m'inviter.
Eh bien, très bien, Jonathan. Ben, on démarre de suite. Troisième édition, hein, une troisième réédition comme ouvrage.
Alors,
Quatrième.
ouais,
Alors, voilà.
je sais pas si tu veux
Voilà, c'est. Non, non, non,
refaire.
non, non, c'est très bien. Ça montre aussi que des fois, je fais mal mon travail. Donc, quatrième réédition, c'est encore mieux parce que ça veut dire que ça marche encore mieux dans le temps. Et c'est rare d'avoir des ouvrages comme ça qui peuvent s'inscrire, qui bien sûr évoluent. Et donc, ça, c'est très, très bien. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la troisième édition?
Eh bien déjà, je ne suis plus tout seul sur la couverture. Donc maintenant, j'ai un enseignant-chercheur, donc Jean-Luc Gilles, qui est désormais professeur émérite, alors qui est à la retraite, et qui était professeur à la Haute École Pédagogique de Lausanne, en Suisse. Et lui est belge. Donc un professeur belge qui travaillait en Suisse et qui a donc coécrit cette quatrième édition avec un Français. Donc c'est une coopération internationale, comme tu peux le voir. Et donc on a fait connaissance avec Jean-Luc, et Jean-Luc est notamment spécialiste de tout ce qui est approche qualité appliquée
D'accord.
à l'évaluation des apprentissages et l'évaluation de la formation. Et quand j'ai consulté ses travaux, je me suis dit, tiens, ça serait vraiment intéressant que peut-être tu rédiges un chapitre, Jean-Luc. Et finalement, en travaillant ensemble, on s'est dit, bah, finalement, ça serait peut-être mieux de faire encore davantage un chapitre, peut-être une partie. Puis finalement, on s'est dit, tiens, on va s'attaquer à la. Honnêtement, je pense qu'on a réécrit 80% du texte de
Ah
la
oui.
troisième édition. Donc, gros travail. Et puis, voilà, la collaboration, deux profils différents. Et donc, ça donne, je pense, quelque chose d'assez sympathique.
Absolument. Donc, bah, j'invite tout le monde à le lire. Donc, ça, c'est avec beaucoup d'intérêt parce que vous allez voir tout ce qui a pu changer. Alors, une question importante, on parle beaucoup de l'évaluation, donner de la valeur aux choses, mais comment est-ce qu'on évalue une formation?
Est-ce qu'on a 4 heures devant nous?
Non, non, je crains que ce soit coupé avant. Hein.
Je m'en doutais. Alors j'aime bien moi faire la distinction entre ce que je dis toujours, qu'on peut évaluer beaucoup de choses en formation, et encore là c'est très limitatif ce que je vais dire, mais je distingue souvent la qualité, l'efficacité et l'efficience. Donc la qualité, est-ce que finalement est-ce que la formation est un bon produit de formation, hein, sans caricaturer, un bon produit, un bon service? Est-ce que l'efficacité, est-ce que la formation a permis d'atteindre les objectifs qui lui étaient assignés? Et efficience, derrière, est-ce que ça a été fait au meilleur coût? Et donc, une fois que l'on a dit ça, dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de se mettre d'accord sur ce que l'on attend de la formation. Finalement, l'évaluation de la formation, si on devait présenter les choses de manière simple et rapide, c'est définir des critères de succès en amont. Qu'est-ce que l'on attend de la formation? Pourquoi fait-on la formation et pourquoi faire en deux mots? Et ensuite, pour pouvoir en déduire des critères d'évaluation derrière en aval. Donc c'est extrêmement vaste. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais c'est vraiment un équilibre entre qu'est-ce que l'on cherche, qu'est-ce que l'on souhaite atteindre, et derrière, ça va nous guider pour savoir comment on va aller vérifier les choses, tout simplement.
Donc ça veut dire que des entreprises, toi qui les rencontres beaucoup, comment est-ce qu'ils évaluent leur formation? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur formation?
Alors c'est très variable. Il y a je crois que ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur le sujet. Au tout début, 20-21 ans, au tout début, c'était vraiment, on était sur des basiques, hein, on évaluait la satisfaction, la fameuse satisfaction à chaud. Allez, de temps en temps, on évaluait l'apprentissage. Mais de plus en plus, on voit que la question centrale, c'est celle du transfert. Est-ce que oui ou non? C'est quand même pas anodin. C'est bien la moindre des choses que l'on puisse attendre d'une formation, c'est qu'elle rende, on va dire, meilleure, plus compétent sur le terrain. Et aujourd'hui, vraiment, le focus est davantage sur le transfert. On évalue pour constater qu'il y a ou pas transfert, et aussi pour comprendre pourquoi ou non il n'y a pas transfert des apprentissages. Donc, est-ce que ce que je vois en formation, est-ce que vraiment je l'applique sur le terrain? Et ça, c'est un sacré défi.
Et quand on voit aujourd'hui, parce que quand on dit transfert des compétences, évidemment, c'est évident parce qu'aujourd'hui, la compétence a beaucoup remplacé la connaissance, mais on s'aperçoit que de plus en plus, on ne sait pas trop quelles compétences on peut attendre. On parle de soft skills, on parle de choses qui sont complexes, et donc on les définit mal. Et donc, quand on définit mal, forcément, on rajoute du malheur aux choses, disait
Ah
quelqu'un.
oui,
Et donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Vu qu'on ne sait pas ce qu'on attend précisément comme compétence, comment est-ce qu'on peut évaluer?
ah bah c'est vraiment tout le défi, hein. Et c'est vrai que très très souvent, enfin moi ça commence par là, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on m'en contacte pour concevoir des dispositifs d'évaluation, alors je dis toujours je ne suis pas un évaluateur, donc je ne suis pas un client mystère qui va aller vérifier derrière si oui ou non les choses sont bien faites, etc. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui apporte de la méthodologie. Et souvent, je commence en disant, voilà, mais voilà, quels sont vos objectifs, quelles sont les compétences que vous souhaitez développer, etc. Et malheureusement, souvent, c'est flou. Alors, c'est flou, je dis malheureusement, mais très honnêtement, je peux l'entendre, parce que ça n'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais lorsqu'on parle de monde VUCA, VICA, on a bien du mal à se projeter et à dire où est-ce qu'on sera dans 6 mois, etc. Donc, quelles seront les compétences dont on aura besoin dans 6 mois? Bah là, c'est compliqué forcément. Donc, c'est une difficulté. Est-ce que oui ou non, on essaye d'être précis, objectif sur l'évaluation, en définissant des livrables attendus à l'issue de la formation, exprimés en objectif, en capacité, en compétences? On peut débattre longtemps des termes. Mais ou alors, est-ce que l'on vise des choses, on va dire, un peu plus larges, où on attend des personnes, notamment, qu'elles développent une capacité en termes d'apprentissage, on va dire plutôt de métacognition, tu vois, d'apprendre à apprendre, etc. Finalement, est-ce que c'est pas ça que l'on attend aujourd'hui? De ne pas se limiter au livrable strict de la formation, mais plutôt de mettre les personnes, on va dire, sur les bons rails pour qu'ensuite elles soient capables d'auto-alimenter, on va dire, cet apprentissage, de développer des compétences en continu et d'aller au-delà des compétences strictement attendues à l'issue de la formation.
Et quand on dit apprendre à apprendre, c'est aussi à la mode. Comment est-ce qu'on évalue si la personne apprend à apprendre?
Alors là, ça c'est la grande question,
Ah.
tout à fait. Alors pareil, enfin, là, en fonction des personnes, en fonction des auteurs, etc., on va avoir des définitions différentes. Mais je pense que l'on peut, tu vois, si on prend, allez, qu'on parle notamment de réflexivité, tu vois, en affect, est-ce qu'une personne, par exemple, va être en mesure régulièrement de faire le point sur son parcours d'apprentissage, est-ce qu'elle va être capable, voilà, je donne quelques idées comme ça, mais tu vois, de s'arrêter, de réfléchir sur son parcours, d'aller solliciter des avis de tiers pour avoir du feedback, savoir ce qu'elle pourrait améliorer, être clairvoyant quant à ses capacités, quant à ses points forts, ses axes de progrès, est-ce qu'elle est en mesure aussi d'aller se former via des modalités d'apprentissage. Je vais pas dire nouvelle, mais en tout cas en dehors de la formation classique. Tu vois, est-ce
Du style.
qu'aujourd'hui, moi je crois énormément aujourd'hui au fait, enfin, je crois à une diminution progressive. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais on va dire de la formation formelle. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, bon, Internet ça fait quelques années qu'Internet existe, hein, mais à l'ère d'Internet, de l'IA, etc. Aujourd'hui, si on a la bonne capacité, si on a ces capacités d'apprentissage, d'auto-apprentissage, si on est capable de capitaliser, de faire de la veille, de construire, comme on dit parfois, son second cerveau numérique, de prendre des notes, de faire des liens entre des concepts, etc., je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages, entre guillemets, de formation dont on n'a plus nécessairement besoin. En fait, on devient vraiment un apprenant. Moi, je parle d'apprenant moderne, hein, mais je suis pas le seul à dire ça. C'est Josh Bersin qui dit ça aussi. Ouais, il y a Jen Hart qui parle aussi de ça. Mais c'est se dire, on est capable d'apprendre en continu, au fil de l'eau, sans attendre un événement de formation que notre responsable formation voudra bien inscrire dans l'agenda à un moment donné.
Donc tu veux dire pour tous les responsables de formation qui nous écoutent que leur métier a vocation à disparaître?
Ah, il a vocation, en tout cas, à sacrément se transformer. Et donc tu vois, alors moi je vais prendre mon exemple, hein. J'ai plusieurs casquettes, dont une qui est responsable de l'Académie AG6, donc une ESN, hein, dans l'informatique dans les Hauts-de-France. Et je dis toujours, y compris à mon dirigeant, j'aurai réussi mon travail le jour où on n'aura plus besoin de moi. C'est-à-dire où naturellement, l'entreprise sera apprenante, où chaque collaborateur aura cette capacité à être encore une fois clairvoyant sur ses besoins, à être capable d'aller solliciter des tiers, à aller contacter pourquoi pas des organismes de formation, à faire de la curation, de la veille, à identifier des sources d'apprentissage, des sources d'information, etc. Et finalement, on attend des collaborateurs qu'ils soient acteurs de leur carrière. Bah, la moindre des choses, c'est qu'ils soient acteurs du développement de leurs compétences. Et à un moment donné, moi, je dois aller au maximum, je dois être là pour mettre de l'huile dans les rouages, mais je dois intervenir le moins possible. Et j'aime on va parler un peu d'économie, hein, j'aime cette image de la main invisible, d'être une sorte de main invisible qui vient saupoudrer là où il y a besoin, mais qui n'a plus besoin d'être, on va dire, un passage obligé pour accéder à la formation et à l'apprentissage.
Donc, tu as confiance dans l'individu et tu penses que les ouvriers à la base sont capables de cette autonomie?
Alors, évidemment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué du fait du métier, peut-être aussi du fait, voilà, je vais généraliser, mais du fait de la scolarité, etc. Voilà, on a des personnes qui n'ont pas vécu forcément l'école, on va dire, de la bonne manière. Donc, à court terme, je suis plutôt pessimiste, et de façon générale, je suis moi de nature pessimiste. Mais à plus long terme, je me dis que si on prend, on va dire, le problème à la base, et si on agit aussi sur le système scolaire, si on fait en sorte de développer aussi cette autonomie à bien des niveaux, on peut faire dévier un peu cette trajectoire, quoi.
Donc, un grand projet.
Oui. Je n'ai pas envie d'être ministre, hein, mais je veux dire,
Ouais.
je souhaite à un moment donné on dit toujours qu'on s'inspire des pays du Nord. Enfin, on trouve les pays du Nord, les pays nordiques inspirants. Au-delà de l'inspiration, j'aimerais bien qu'un jour on décide de passer de l'inspiration à l'action, par exemple.
Ça serait bien, ça. Alors,
Ouais.
justement, dans les responsables de formation en entreprise, il y a beaucoup qui disent de plus en plus, chacun va se débrouiller tout seul. Ce que tu disais très justement, sauf qu'à un moment, il faut développer l'envie. Et
Oui.
donc, c'est souvent le design de la formation, le marketing, qui va dire ça va être génial, on fait une communauté apprenante, enfin, tous les systèmes sont bons, mais je donne l'envie et après, les gens peuvent travailler seuls. Mais au départ, le rôle de la formation, ça va être cette façon de mobiliser, motiver les gens.
Ouais.
Tu trouves ça
Ah ouais.
bien ou...
Ah oui, complètement. Oui. Alors vraiment, il y a un travail énorme à faire sur la formation. Encore une fois, hein, quelles que soient les modalités, mais dans tous les cas, ça commence par là. Hein. Lorsqu'on parle d'engagement, on parle d'envie, etc., bah, il faut pouvoir embarquer et on ne fait pas apprendre de force, quoi. Je veux dire, ça, je n'y crois pas. Et donc, on ne peut pas attendre des collaborateurs qu'ils suivent une formation contraints et forcés et sans en avoir l'envie, etc. derrière. Hein, le formateur, la formatrice ne fera pas de miracle, hein, encore une fois. Et je pense qu'il faut pouvoir travailler sur la formation et aussi sur l'organisation, sur l'environnement du travail, sur le collectif, sur le lien avec le manager, avec les collègues, etc. Je prends un exemple tout bête, hein, mais comment peut-on attendre d'un collaborateur qu'il s'investisse dans sa formation si, par exemple, le manager ne montre pas l'exemple? Donc voilà, à un moment donné, le manager doit pouvoir montrer l'exemple, lui, en se formant régulièrement, en faisant de la formation un sujet aussi des rituels managériaux. Voilà, hein, qu'est-ce que vous avez appris au cours de la semaine dernière? Voilà. Voilà, qui a pu suivre une formation? Alors normalement, il est censé être au courant. Qui a pu suivre une formation? Qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre au sein de l'équipe? Enfin voilà, avoir des temps aussi de retour en équipe post-formation. Voilà, c'est tout ça pour moi qui. Enfin voilà, il y a une question d'exemplarité, il y a une question d'image, et la formation ne doit pas être uniquement du ressort des acteurs de la formation. Ça doit être du ressort du collectif du travail, si on veut justement que ça ne soit pas vu comme une contrainte administrative.
Absolument. Et donc, tu parlais de l'intelligence artificielle, ça va bouleverser beaucoup de choses pour toi?
Alors, je pense que oui, je pense que ça bouleverse déjà. Bon, je suis assez critique sur l'IA parce que voilà, ça n'est pas anodin en termes de coûts économiques, écologiques, etc. Il y a aussi des coûts cognitifs. Hein, donc voilà, si demain on délègue tout à ChatGPT pour ne citer que cet exemple, on le voit, il y a quand même des questions qui se posent. Mais il est certain que voilà, on doit en tenir compte. On doit en tenir compte. dans, on va dire, dans notre profession, on va dire, en tant que professionnel de la formation, mais aussi en matière d'apprentissage pour les collaborateurs, pour les apprenants de manière générale. Et aujourd'hui, on le voit, on a des applications qui permettent de, on va dire, d'apprendre quand même assez facilement une autre langue, et y compris en jouant sur la confiance. Parce qu'aujourd'hui, lire, écrire, c'est bien, mais si tu veux savoir parler anglais, ben, c'est bête de le dire, mais il faut parler anglais. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus de mal à parler anglais avec un humain parce que je me dis, je vais parler n'importe comment, je vais pas utiliser le bon accent, etc. Je vais me sentir jugé, alors que si je parle avec une IA, alors certes, je n'aurai certainement pas la chaleur humaine, vais-je dire, mais par contre, je me sens peut-être plus à l'aise. Et donc, je le vois bien, peut-être pas comme enseignant en langue finale, mais comme un excellent intermédiaire pour ensuite aller vers des besoins, on va dire, plus poussés avec des êtres humains. Voilà, on peut l'imaginer ainsi, avoir ce. Voilà, peut-être pour valider des premiers niveaux, etc. Et pour travailler, pour débloquer cette confiance qui m'empêche aujourd'hui de me lancer, et parce que c'est nécessaire de se lancer si on veut maîtriser une langue étrangère, par exemple.
Et je ne sais pas si tu avais vu que sur ChatGPT, la version 5, quand ils ont changé, parce qu'ils trouvaient que tout le monde trouvait que c'était trop, trop sympa, trop, oui, formidable, Stéphane, c'est extraordinaire ce que tu dis, etc.
Ouais.
Donc ils ont un peu épuré. Eh bien, aux États-Unis, ils sont remontés au créneau pour dire, redonnez-nous notre ChatGPT. Et
Ah
donc
oui.
ça veut dire qu'ils aiment bien, il y a une relation émotionnelle avec la machine, et les gens sont habitués à, comme un ami numérique,
Oui.
et donc un formateur numérique, quelqu'un de sympa avec qui on peut parler quand on veut, quoi.
Ouais, ah oui, tout à fait. Ah ben c'est et j'ai vu derrière récemment sur LinkedIn passer un classement des applications à base d'IA les plus utilisées. Et alors je saurais plus te dire les chiffres exactement, mais je sais que dans les premières, il y avait pas mal d'applications de type compagnon ou petit ami, au masculin comme au féminin, voilà, pour l'aspect émotionnel, etc. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça montre
Et
bien qu'il y a une relation qui peut se développer.
alors ça touche aussi l'évaluation, parce qu'on peut demander à ChatGPT de nous évaluer. On dit par exemple, faisons des exercices, fais-moi des quiz, donne-moi
Oui.
des notes, dis-moi comment je dois m'améliorer.
Oui, ah oui, complètement. Et là, ça peut être intéressant, alors si on l'utilise dans ce cadre, pourquoi pas être dans une logique un peu de, non pas de classe inversée, mais d'évaluation inversée, où on dirait, tiens, pour me montrer, pour prouver que tu as bien acquis telle ou telle notion, bah justement, sers-toi de l'IA pour concevoir l'évaluation, et peut-être même, voilà, faire de l'évaluation entre pairs, voilà, vas-y, va construire, je prends un exemple tout simple, mais va construire le quiz qui va bien, pour ensuite le soumettre à tes collègues du groupe, aux autres membres du groupe, etc., pour avoir des évaluations croisées, des choses de ce type. Donc, on peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser, pourquoi pas, parce que le problème du quiz, c'est qu'on peut facilement créer un quiz avec ChatGPT, et donc on peut facilement aussi y répondre. Mais pourquoi pas travailler aussi sur des situations un peu plus élaborées où on sait que l'IA ne va pas pourra être une aide, mais ne pourra pas donner une réponse, on va dire une vérité absolue, quelque chose de trop simple. Donc voilà, plutôt des mises en situation, on va dire. Là, on pourrait l'imaginer se servir de l'IA pour ça.
Une autre façon d'évaluer la formation, par exemple, c'est de l'enregistrer avec l'IA. Il y a tous les outils d'enregistrement. Et derrière, l'IA nous fait une synthèse de tous les intervenants, qui est intervenu, qui a posé des questions. Et donc, ça permet d'évaluer, une autre façon d'évaluer la formation.
Ah oui, complètement. Oui, et c'est vrai que c'est utilisé aujourd'hui dans un autre domaine, c'est beaucoup utilisé pour les réunions aussi.
Oui.
Voilà, où tu as la prise de notes, transcription, tu as derrière le plan d'action qui en ressort. L'IA est capable d'identifier la voix des différents intervenants, etc. Donc c'est vrai que bon, ça, il est clair que ça fait gagner un temps quand même, un temps considérable. Et donc demain dans la formation, il est certain qu'une formation qui est enregistrée de A à Z, on pourrait aller questionner, voilà, sur des points parfois. Souvent, on va construire, si je reprends l'exemple du quiz, on va construire un quiz en fonction du contenu du programme, on va dire, prévisionnel de la formation, de l'éventuel traditionnel support PowerPoint, etc. Mais lorsqu'on va sortir des anecdotes, des exemples, etc., à la volée, qui n'était pas prévu au programme, ça ne sera pas questionné pour le coup derrière. Alors que si on a cet enregistrement et qu'on a l'IA qui est capable d'identifier que tiens, à tel moment, il y a tel apprenant, tel participant qui a posé une question spécifique à son métier, à son entreprise, etc. Voilà, c'est un bon moyen de vérifier le niveau d'attention des participants.
Et donc, c'est pas mal comme dans l'évaluation, parce qu'à la fois, on peut évaluer le formateur, d'ailleurs,
Oui.
où il peut s'auto-évaluer, et à la fois, on peut, les apprenants, le collectif, est-ce que chacun apprend seul ou est-ce qu'on arrive à créer des groupes, on parle de pédagogie,
Oui.
donc c'est très utile dessus pour pouvoir faire des choses comme ça. Donc, l'IA, est-ce que finalement, dans l'évaluation, le responsable de formation ne devrait pas former tout le monde à l'IA?
Bah, de toute façon, aujourd'hui, je pense que, quelle que soit l'opinion que l'on a sur l'IA, je pense que la formation est nécessaire parce que, ne serait-ce que pour développer un point de vue critique. On ne peut avoir un regard critique sur ce que l'on connaît en quelque sorte. Donc être formé, comprendre les limites, comprendre dans quel cas ça peut être pertinent de l'utiliser. Beaucoup d'entreprises développent des chartes aussi en matière d'utilisation de l'IA. Dans quel cas je dois l'utiliser? Est-ce que je dois l'utiliser? Ça, c'est vraiment un grand débat. Est-ce que je dois l'utiliser pour les aspects, on va dire, connexes de mon travail? Voilà, si je suis responsable formation, écrire des emails, c'est peut-être pas mon quotidien. Donc, si ça m'embête de faire ça, pourquoi pas déléguer à l'IA? Donc, ça peut être, on va dire, toutes les tâches dites accessoires, la prise de notes en réunion, enfin des choses comme ça, comme on vient de le dire. Et par contre, si on l'utilise pour son cœur de métier, là, on doit pouvoir garder la main. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Enfin, moi, je vais utiliser une image. C'est Denis Christol qui utilisait cette image en disant. L'IA ne doit pas être une prothèse, mais plutôt une orthèse. Et j'aime bien cette image parce que ça ne doit pas faire à la place d'eux, ça ne doit pas remplacer. Par contre, ça doit nous donner plus de puissance. Donc, je crois beaucoup au fait de d'abord faire les choses et ensuite d'utiliser l'IA pour challenger notre production, challenger nos réflexions, etc. Un peu comme on pourrait solliciter un collègue, mais qui serait peut-être pas disponible à 23 h en pleine semaine un soir.
C'est vrai que ça peut arriver. Hein.
C'est
Mais,
ça.
le problème de l'IA aussi, c'est que l'IA n'est pas de l'entreprise. Donc, c'est externaliser à la fois l'évaluation, c'est externaliser le formateur.
Oui.
Et donc, c'est l'entreprise perd la main. Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas être dépossédée de ses connaissances et compétences?
Ah bah alors là, gros sujet. Je pense que là, une réflexion comme ça, hein, sans être spécialiste, je pense que l'avenir est d'abord sur peut-être des modèles plus spécifiques, plus petits. Et qui soit entraîné sur avant tout les données de l'entreprise. Donc, enfin, on doit pouvoir identifier ce qui est du ressort de l'entreprise, les données spécifiques, contextuelles, entreprise, etc., et savoir dans quel cas l'IA s'alimente à partir de ces données ou lorsqu'elle va chercher des données tierces, etc. On le voit, moi, j'utilise dans mon entreprise Copilot de Microsoft et on voit qu'il y a clairement une séparation entre voilà, là, est-ce que je souhaite l'utiliser sur la base des données de mon entreprise, AG6, ou est-ce que je souhaite m'alimenter à partir du web, etc. Et donc dans ce cas, ça nous permet aussi de pointer du doigt des données qui peuvent être manquantes, des données, peut-être des informations qui sont obsolètes, etc. Donc je pense qu'on doit garder la main au niveau des données, et on doit éviter le plus possible, forcément, de perdre, on va dire, je vais dire, en capacité cognitive. Il y a ce risque, je m'explique, c'est que je crois que ce sont les chauffeurs de taxi londoniens. On avait montré que voilà, la zone de leur cerveau, je crois de mémoire, l'hippocampe, celle qui
Oui,
sait en tout cas
absolument, c'est ça.
l'orientation, voilà, c'était un peu sclérosé. Demain, il y a ce risque
Elle
aussi.
avait été divisée par deux.
Ah oui, quand même, donc c'est pas
Énorme.
anodin.
Oui,
C'est pas
exactement.
anodin. Donc aujourd'hui, si effectivement on fait appel sans arrêt à l'IA pour la moindre réflexion, demain il peut y avoir. Ouais, une interruption de tel ou tel service, il peut y avoir des difficultés, etc. Bon, ça serait dommage de se retrouver comme des poulets sans tête. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un défi pour les responsables de formation, c'est à la fois de préparer à l'IA, encore une fois, en fonction de la stratégie entreprise, mais je pense vraiment de toujours d'avoir un plan B en tête, en disant, attention, je vais utiliser une image, c'est aujourd'hui, n'importe qui, je pense, utilise un GPS en voiture, bah, de temps en temps, je pense que c'est bien de conduire sans GPS. Et d'apprendre à s'orienter ou à se réorienter, pourquoi pas à lire une carte papier, ce que je suis incapable de faire, donc je ne donne pas de leçons. Mais je pense qu'on doit pouvoir avoir cette capacité Je parlais de l'apprentissage des langues étrangères tout à l'heure. Si demain, voilà, je passe uniquement, voilà, avec un casque qui traduit ce que je dis pour mon interlocuteur et inversement, le jour où, voilà, je n'ai pas mon casque, où je me retrouve en Angleterre, dans les rues, je n'ai pas, voilà, il faut que quand même que je puisse rebondir. Donc pour moi, il y a vraiment ce défi d'éviter de devenir des assistés de l'IA, si je puis dire.
Elon Musk parlait du petit chien de l'IA.
Ah oui, voilà, j'aime bien aussi cette image.
Ouais, exactement.
Elle est terrible, mais je l'aime bien.
Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que l'évaluation sur la formation et ce que l'IA pose aussi comme question, c'est qu'il y a une dépendance nouvelle avec les big data, etc. On est capable de faire énormément de choses, d'apprendre énormément de choses, beaucoup mieux que chacun des personnes elles-mêmes. Et donc, grâce aux data qu'elles produisent, qu'elles laissent sur le net, des choses comme ça. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un danger de dépossession? Ce que les partenaires sociaux appellent aussi en disant c'est un danger rare, parce que finalement, les individus vont être aliénés au sens marxiste du terme. Donc, c'est la machine qui va prendre la main. Et donc, soit on fait confiance à la machine, soit on n'a pas confiance. Et sans être un ludiste, ben finalement, c'est le fait de dire qu'il y a un risque important de dépossession de l'humain qui deviendra le sous-produit de la machine.
Ah bah clairement, oui, bah je suis assez d'accord avec cette analyse, hein. C'est un véritable risque. Et j'ai envie de dire, oui, ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Je veux dire, aujourd'hui, bon courage pour vivre et travailler sans smartphone, sans email, sans planning, sans tout ça. Donc, on va dire c'est une couche supplémentaire, mais et qui, dans tous les cas, nous est imposée par notre environnement de travail. Donc, il y a ce risque, hein, j'utilisais récemment dans ma newsletter, dans mon infolettre, l'image de la reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est se dire, voilà, il faut continuer de courir, on fait du surplace. Aujourd'hui, est bien courageux le formateur qui dit non, moi je refuse complètement l'IA, je ne m'y mettrai pas. Alors peut-être qu'il y aura un marché comme ça, un peu comme il y a un marché pour les produits bio, etc. Il y aura peut-être des clients pour cela, mais c'est un risque forcément parce que c'est le risque d'être dépassé par tous les autres. Donc on est un peu dans une espèce de cycle infernal où effectivement on doit aussi se poser des questions quant à l'avenir du travail.
Quelle est la démarche éthique? Alors, il y a aujourd'hui des low-tech, c'est-à-dire des formateurs qui disent, moi, je refuse d'utiliser la tech parce que c'est l'homme et la connexion, c'est de l'humain qu'on veut. Ils ont une certaine résonance, alors à la marge, bien évidemment, parce que de l'autre côté, ça fait une productivité énorme et tout le monde va aller vers ça. Mais il y a une vraie réflexion éthique dessus, tu as raison.
Ah ouais, tout à fait. Oui, non, mais clairement. Et puis, voilà, ça, encore une fois, hein, ça pose des enjeux économiques, sociaux, sociétaux, écologiques. Enfin, il y a énormément de choses. Donc aujourd'hui, moi, je crois vraiment qu'il y a. Je veux dire, je vais raisonner en termes de marché, mais je pense qu'il y a un marché pour ça. Et qu'au bout d'un moment, on acceptera ou pas, je reprends l'image des produits bio, hein, donc on acceptera de vouloir des productions 100% humaines, ou on acceptera une production ou une formation avec, on va dire, un certain pourcentage de doses d'IA dedans, enfin pourquoi pas, il y aura des choses comme ça, ou alors on se dira non, non, mais moi c'est au moins 10 ans, et je veux voilà, quelque chose, le produit le plus rapidement possible, au moindre coût. Et si c'est que de l'IA, ça me va très bien. Et on le voit aujourd'hui avec dans le milieu de la traduction, hein, des traducteurs.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, on a parfois des traductions qui sont horribles. Ça n'est même pas relu. Donc voilà, l'IA pourrait être une aide, mais derrière, les traducteurs doivent relire et passent parfois plus de temps à corriger ce qu'a fait l'IA. Alors, je pense que ça évoluera aussi. Peut-être que voilà, on n'en est qu'au début des capacités de traduction des IA, et peut-être que demain. Enfin, sûrement même,
Bien sûr.
ça aura une qualité équivalente à celle de traducteur humain. Mais voilà, ça va poser des questions. Voilà, il y aura un ratio, on va dire, bénéfice-coût, et ça sera au client, au consommateur, quel qu'il soit, à mettre le curseur là où il est à l'aise aussi, en termes d'éthique.
Il y a beaucoup de personnes qui parlent avec l'IA et les big data de la prédictibilité. C'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper les compétences des gens, donc les talents, ce qui n'est pas encore né aujourd'hui mais qui se remet. Et donc on est capable de leur donner une formation avant même qu'ils aient ce besoin. Finalement, tu trouves que c'est crédible, science-fiction
Je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses qui ont du sens, enfin, il y a des réflexions qui ont du sens. Maintenant, comme on en parlait tout à l'heure, hein, aujourd'hui, bien malin est celui qui est capable de dire où sera son entreprise parfois dans 6 mois, 1 an. Donc, on pourra avoir la même réflexion au niveau des parcours des apprenants. De quoi ai-je besoin? Si, n'importe quelle personne allez, en septembre-octobre 2022, ce serait je pense que, alors je crois que ChatGPT, c'était novembre 2022, je
Le
crois.
30 novembre.
Ah, voilà, 30 novembre, boum, quand c'est apparu, je pense que ça, pour beaucoup de responsables formation, ils étaient en train d'élaborer leur plan de développement des compétences et ça a dû leur faire tout drôle. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tout bouleversé. Par contre, je pense que beaucoup de personnes ont commencé à se dire, oula, je vais peut-être repenser peut-être à mon métier, à mes compétences, etc. On a commencé à se poser beaucoup de questions. Et donc, aujourd'hui, l'IA peut nous aider à identifier des tendances. Il y a des tendances logiques. Ou voilà, je vais prendre un développeur informatique, mais un développeur informatique, voilà, on voit à peu près comment évoluent les technos, on voit à peu près comment ils pourraient utiliser ou non l'IA dans leur métier, etc. Donc l'IA peut servir à établir des parcours et effectivement à avoir cette capacité, on va dire, de prédiction. En tout cas, ça peut être une aide utile. Voilà, pour d'autres métiers, peut-être sur la partie, tu parlais de soft skills tout à l'heure, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué.
Si tu avais un responsable de formation qui se dit je vais remettre à plat tout mon système d'évaluation, tu dirais il faut commencer par quoi?
Alors, la première question que je lui poserai, c'est comme pour les formations.
T'appeler?
Ouais. Pourquoi pas, s'il le souhaite.
Hein? Bien sûr.
Pourquoi pas. Et la première question que je lui poserai, c'est comme pour les formations. Je dirais pourquoi. Je dirais pourquoi, en fait, pourquoi, qu'est-ce que tu. Je lui ai proposé d'abord, je lui ai demandé est-ce que tu es d'accord pour qu'on se tutoie, voilà. Et
Ça
ensuite, je
marche très bien.
dirais qu'est-ce que tu veux faire, en fait? En quoi l'évaluation va être utile? Qu'est-ce que tu souhaites montrer, démontrer, pour faire quoi, pour quelles actions, etc. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer ce que l'on va évaluer. Tu vois, quelqu'un qui me dirait, moi, je veux juste faire un classement des organismes de formation avec qui je travaille en fonction du niveau de satisfaction, bon, bah voilà, ça va être assez réglé. Si c'est quelqu'un qui me dit, moi, je suis intéressé par les questions du transfert, de l'implication des managers, je pourrais identifier les équipes qui surperforment en termes d'apprentissage, en termes de développement on va dire, des capacités d'apprenance, etc. Voilà, on va mettre le curseur ailleurs et ensuite on va bâtir les outils qui vont bien. Mais vraiment, pour moi, la question du pourquoi tu fais les choses et pourquoi faire derrière, elle reste essentielle tant pour la formation que pour l'évaluation. Donc ça, c'est la base et on y passe un peu de temps parce qu'il faut s'assurer que le système que l'on va construire sera vraiment représentatif des intérêts des parties prenantes. Parce que si on construit quelque chose qui est juste une lubie du responsable formation et derrière on produit des résultats qui n'intéressent que lui, bon bah c'est bien, alors moi j'aurais facturé, hein, je serais très content, mais au final on aura produit une espèce de colosse au pied d'argile qui ne sera utile pour personne, presque personne.
Donc aujourd'hui, pour changer une culture de la formation, tu penses qu'il faut combien de temps?
Alors là, je pense que c'est très long. Je pense
Ah
qu'il
ouais.
faut. Je pense que c'est plus long. Je dis souvent que l'évaluation, c'est pas un défi technique, c'est un défi culturel et organisationnel. Je pense que c'est. Allez, peut-être pas comme une culture d'entreprise, mais honnêtement, Allez, vraiment à vue de nez, en doigt mouillé, je pense qu'il faut raisonner en années et je ne serais pas étonné qu'il faille au moins 3-4 années, au moins, pour changer une culture. Parce que vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il faut basculer du moyen au résultat. Et basculer du moyen au résultat, c'est arrêter de communiquer les indicateurs aussi de satisfaction, des indicateurs de moyens, des indicateurs de volume, etc. Et commencer à montrer du résultat qui intéresse les personnes internes, qui intéresse aussi jusqu'aux partenaires sociaux. Et que on aura gagné aussi le jour où les partenaires sociaux arrêteront de négocier et de ticker lorsqu'il y a des baisses de volume de formation et par contre qu'on a plutôt une augmentation de l'efficacité derrière. Donc il faut pouvoir faire passer l'idée que le succès de la formation comme son échec est une responsabilité partagée. Et lorsque tout le monde a pris conscience de ça, que la formation ne fonctionne pas en vase clos, là je pense qu'on a. Voilà, il y a une bascule culturelle. Mais honnêtement, c'est le plus long. Hein. Moi j'ai des clients, oui, ça met du temps. On y va doucement mais sûrement, mais ça prend des années.
Aussi, c'est plus pratique de contrôler un budget de formation parce qu'on a un volume financier que de changer des comportements qui sont souvent évanescents ou mal évalués.
Ouais. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est vrai que voilà, ça c'est
Est-ce que
les vestiges de la
finalement.
24-83.
Ouais, hein, c'est exactement ça. Est-ce que
Ouais.
finalement, la meilleure façon d'évaluer, ça serait pas justement, tu parlais de taux de satisfaction, de demander aux apprenants, est-ce que vous avez appris quelque chose qui s'auto-évalue?
Alors moi je crois, alors je pense qu'on peut travailler en ce sens, on peut développer ça, mais je crois vraiment au fait que à un moment donné, l'évaluation doit plutôt devenir une forme de compagnon de l'apprenant et de lui faire prendre conscience que ça n'est pas, on va dire, une évaluation hors sol, une espèce de on est dans notre tour d'ivoire et on observe de loin, on manipule des data, etc. Mais plutôt quelque chose qui va l'accompagner, pourquoi pas sous la forme d'une application justement, et qui l'aide à se poser les bonnes questions. Nous, ça génère de la data, ça lui donne des indications. Tiens, tu as été formé à la prise de parole en public, quelle est la prochaine fois où tu vas te retrouver à prendre la parole en public? Est-ce que tu veux des indications, des conseils pour cela, etc. Et donc, à la fois, on aide à l'apprentissage, on aide au transfert des apprentissages, et en même temps, on génère des données qui nous permettent de vérifier que oui ou non, c'est mis en œuvre. Donc, en ce sens, je pense vraiment que on ne doit pas avoir peur de l'auto-évaluation, on ne doit pas avoir peur de demander à l'apprenant ou collaborateur d'être le premier évaluateur. Ça n'est pas une évaluation de sa personne, c'est une évaluation de la capacité de la formation à le faire grandir. Donc voilà aussi, il y a une question de communication et ça fait partie aussi du changement culturel.
Et comme tu parlais de la culture, ben, un des éléments de l'évaluation, c'est qu'on a peur d'être stigmatisé en disant si on donne des notes, par exemple, ben, est-ce que j'ai la moyenne, est-ce que je passe, est-ce que j'ai validé? Il y a aussi ce sentiment d'être sanctionné.
Ah oui, clairement. C'est pour ça que la communication est vraiment essentielle, notamment en amont, pour expliquer pourquoi on évalue. Et c'est peut-être très français, hein. Évaluation égale notation égale sanction. Donc on voit les choses ainsi. Il y a des traumatismes, encore une fois, des traumas de l'époque scolaire. Mais on doit vraiment insister sur pourquoi on évalue, qu'est-ce que l'on va faire, quelles sont les garanties que l'on donne. On parlait de charte d'utilisation de l'IA tout à l'heure. Je trouve ça très pertinent, moi, d'avoir une charte en matière aussi d'évaluation, pour aussi avoir des engagements clairs, que ça ne peut pas se retourner contre le collaborateur, d'expliquer ce que l'on en fait, de communiquer aussi les résultats, de montrer les actions que l'on a pu entreprendre, etc., pour rassurer, faciliter la mise en œuvre de l'évaluation, les intéresser, leur donner envie. Tu en parlais tout à l'heure, enfin, y a pas mal de choses à faire.
Donc c'est pas mal parce que l'idée justement de les rassurer, de les accompagner, on peut faire comme il existe des services clients qui s'occupent des gens qui ont des problèmes. Souvent, bah, il peut y avoir des services apprenants où justement bah, on les suit. C'est une autre philosophie de l'apprentissage et ça, c'est aussi de l'information.
Ah, clairement. Oui, tout à fait. Ah, ça peut, et puis ça, il y a clairement une utilité dans la partie post-formation, en disant, tiens, voilà, est-ce que vous avez pu mettre en pratique? Bah, tiens, pourquoi? Est-ce qu'il vous manquait quelque chose? Est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas claires? Est-ce que vous avez besoin d'aide-mémoire, d'outils? Est-ce que vous avez besoin d'être mis en relation avec des personnes qui ont réussi à passer à l'action, etc.? Donc voilà, on les laisse pas se jeter dans le grand bain, en espérant que la magie opère et que le transfert se fasse et que la compétence se développe. Non, non, on doit les accompagner.
Certaines personnes disent que le service formation va devenir un service apprenant.
Ça aurait du sens. J'imagine qu'on parle de. C'est en lien avec l'appellation. J'écoutais un podcast juste avant d'ailleurs qui en parlait, tu vois, l'appellation, on va dire, anglophone de L&D. C'est vrai qu'en français, on a du mal un peu à dire, voilà, le responsable formation et apprentissage, parce qu'on imagine tout de suite qu'il devient responsable d'un CFA. Donc, mais je pense que voilà, si c'est au sens de s'occuper, on va dire, embrasser l'ensemble des modalités d'apprentissage et plus se limiter à la seule formation et considérer ouais, l'autonomie de l'apprenant. Si c'est dans ce sens-là, oui, moi j'y suis tout à fait favorable, quoi. Un service apprenant qui aide les apprenants à devenir plus apprenants et l'entreprise à devenir plus apprenante. La boucle est bouclée.
Et c'est là où on a besoin d'indicateurs pour savoir si on avance ou si on recule. Ça permet justement de savoir si on progresse dans son projet, parce qu'en fait, il faut quantifier. Et
Ah oui.
on reboucle avec l'évaluation. Sans évaluation, on sait qu'on a changé, mais on ne sait pas si c'est en bien ou pas bien.
Oui, tout à fait. Et tu as raison. Et on doit pouvoir aussi, en tant que service formation, s'évaluer. Donc, il y a les évaluations des actions de formation en tant que telles, quelles que soient les modalités, encore une fois. Mais il y a aussi cette question de l'image du service formation. Est-ce que vraiment il apporte une valeur ajoutée? Est-ce que oui ou non, tu avais reçu il n'y a pas longtemps Alain Ménian. Et
Oui.
Alain Ménian avait cette belle. Alors, je n'ai plus l'expression exacte en tête, mais je crois qu'il disait que la. Voilà, le service apporté aux opérationnels, voilà, c'est ça la valeur ajoutée d'une fonction support. Et voilà, la fonction support, sa valeur ajoutée, elle se mesure aussi dans la capacité à aider les opérationnels à mieux faire leur travail. Donc, en tant que service formation ou service apprenant, on doit pouvoir régulièrement demander à nos clients, internes comme externes, si oui ou non on les aide tout simplement, est-ce qu'on leur apporte un service de qualité?
Exactement. Bah, bravo, très très belle conclusion, puisqu'on arrive à la fin. Alors, tous ceux qui t'aiment bien, tu parlais d'une newsletter, est-ce qu'on peut s'y
Oui,
inscrire?
bien sûr, et c'est totalement gratuit. Donc c'est sur Substack, donc c'est jonathanpotier.substack.com, et là, elle s'appelle Impact Formation, tout simplement. Et donc elle est envoyée actuellement un lundi sur deux, et je parle de pratiques, c'est assez court, c'est 5 à 7 minutes, à chaque fois je développe une pratique visant à aider les lecteurs et lectrices à évaluer et à améliorer l'impact de leur formation.
Ah bah très très bien. Et surtout, ce que tu as donné comme élément indicateur montre qu'il y a un certain niveau de qualité. Je n'y suis pas inscrit, bah j'irai m'inscrire.
Eh ben super, merci Stéphane, tu y es le bienvenu.
Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.